Nous méditons les vertus cette année. Tout ce qui est inscrit dans la révélation, la Torah, les mitzvot, les prophètes, se résume à faire croire en Dieu de tout son cœur, tout son âme, tout son esprit, c'est-à-dire son prochain comme soi. Et ceux ne font qu'un. Par l'acquisition du cœur humain pour pouvoir aimer dans toutes les profondeurs de l'humain est impensable s'il n'y a pas l'amour absolu de Dieu. Impensable. Il est strictement impossible d'acquérir les vertus sans l'amour de Dieu. C'est pour ça que le grand découvreur des vertus, le grand découvreur du cœur humain, qui est un païen, qui est Aristote, dans la pratique, n'avait pas les vertus. Il avait un nombre de vices considérables sur lesquels je me tairai. Et pourtant, c'est le grand découvreur des vertus, Aristote. Le païen. C'est le païen qui a découvert la vérité, mais qui n'a pas su la réaliser. Il a découvert la vérité sur l'homme, mais il n'a pas su. Il n'a pas eu la force, il n'avait pas l'amour de Dieu. C'est ce qu'explique Saint François de Sales dans son traité sur la charité. Saint François de Sales a connu la blessure du cœur de Jésus. Et le sang coulait continuellement, le sang palpitant d'amour de Jésus coulait continuellement, corporellement de lui. Tandis qu'il célébrait l'Eucharistie et qu'il faisait oraison. Il était stigmatisé, comme Saint François d'Assise, comme les multitudes des saints. Les disciples du Seigneur. C'est extraordinaire, c'est un ressort qui remarque, qui fait cette remarque, sans Jésus, sans la grâce, sans l'amour de Dieu, alors là, comment pourrais-je acquérir, le sortir, je sais comment il faut le faire, mais il n'en est pas la force, c'est l'amour qui donne cette force. C'est l'amour qui donne cette pureté de la vertu, du cœur. C'est l'amour qui fait émerger. Mais tant qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans notre cœur est comme une pierre au fond de la baignoire. Et vous mettez l'amour de Dieu dans notre cœur, dans le cœur, à ce moment-là, ça devient comme un bouchon. Et ça monte à la surface. Et on respire dans les vertus. Et c'est une émergence du cœur au-dessus du niveau de la mer. Et pour ça, vous pouvez avoir la légèreté de l'amour de Dieu. Et Saint Thomas d'Aquin, par exemple, puisqu'on est beaucoup dans Saint Thomas d'Aquin, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va constater, et puis il va simplement l'expliquer. C'est tout simple, mais c'est justement petit à petit ce qu'on va essayer d'expliquer. Et là, c'est de voir quand même comment se conjoint comme ça dans des vertus qui sont des lois naturelles, qui sont la santé native de l'affectivité humaine, comment ça se fait que. Comment faire pour mettre toutes les énergies de l'amour de Dieu dedans pour qu'elles soient possibles? C'est ça le secret des vertus. Pour qu'il y ait l'éclat de la jeunesse de l'homme. Pour que l'homme soit toujours éclatant et jeune. Frais. Beau, léger. Et fraîcheur, jeunesse, beauté éclatante. Ça, c'est la vertu de tempérance. Qui le permet, c'est un des fruits de la vertu. Que nous avons vu la dernière fois. On avait vu les 20 vertus. On les avait comparées à un échiquier avec les deux rois, les deux dames. Quatre vertus principales. Contre la gourmandise, contre la luxure. La continence. La chasteté. Et la pureté, la virginité, si vous préférez. C'est beau de voir ça, que les pièces maîtresses, royales, ce sont ces quatre vertus, ce sont quatre vertus de la tempérance. Puis alors après, il y a les tout. Mais principalement la modestie. La modestie, la discrétion. l'action, la docilité. Et donc on avait fait tout ça. Et puis il y a des sous-vertus qui les défendent, comme les fous. Les chevaux. Ça, c'est beau ça. Et puis après, il y a les pions. Et parmi les pions, il y a des sous-catégories, il y a les sous. C'est comme une famille, il y a quatre générations. La tempérance, les quatre vertus principales, les vertus insuivantes, et de modération, vous avez vu la dernière fois. Et puis, voilà, et puis les vertus de défense. Et enfin, toutes les sous-vertus, celles qui font la trame de l'éclatante beauté du cœur humain, lorsque tout est assumé, toutes ces forces sont assumées pour qu'il puisse avoir une affectivité légère, éclatante, rajeunie, pure, paix, inaltérable, incorrompue. Et d'abord, la tempérance, c'est lié à la corruption. C'est l'inverse de la tempérance, c'est la corruption. Notre affectivité est vieille, laide, flétrie, corrompue, corruptible, morte, si on n'a pas la vertu de tempérance. Sans la vertu de tempérance, alors qu'est-ce qu'on est moche? On a honte. D'où la pudeur. C'est tout ce qu'on a vu donc la dernière fois. Alors, comme c'était pas, pas été auditionné, alors du coup, sous la droite de Philippe, là, il y a un petit mémoire de ce qui a été dit la dernière fois. Voilà. Donc vous pourrez prendre, c'est là, et c'est bien. Ça vous fait une petite memento de 4 pages. Si on avait fait la dévalse, ça fait 19 pages. Vous voyez, c'est vraiment très différent. Donc aujourd'hui, eh bien, il faut essayer de voir. Que je vous avais promis qu'on approfondirait un petit peu. Parce que d'avoir une espèce de survol sur toutes ces vertus, hein, je signale quand même une chose que j'aurais voulu quand même préciser de la fin, que je n'ai pas précisé. Évidemment, il y a les rois, la dame, pour jouer l'échiquier, l'effectivité, la jeunesse, hein, pour gagner, vous voyez, pour être toujours gagnant. Voilà, il faut avoir bien sûr ces pièces maîtresses. Mais bizarrement, il y a aussi les petits pions. Et parmi le dernier petit pion, parmi les petits pions, vous vous en rappelez, il y a par exemple l'eutropie. L'eutropie, c'est des gens qui sont purs, qui sont tempérants, qui ont une affectivité toute maîtrisée, toute profonde, toute aérienne, sont gays. L'eutropie. C'est le contraire. Les gens qui ne sont pas purs, sont moroses, barbares ou grossiers, excessifs, lourds. Tandis que l'eutropie, qu'est-ce que c'est agréable? Il y a quand même tous ces petits pions extraordinaires. Et le dernier petit pion, et parmi un autre pion, c'est le fait de la splendidité, être splendide. Cette vertu-là est magnifique. Être belle, être splendide. La modestie, externe. Vous voyez, le fait dans la manière de se vêtir, la manière de s'ornir. Des gens qui ne sont pas purs du tout. Qui sont extravagants. Extravagants. Ou alors négligés. Alors, si vous êtes pur par votre manière de vêtir, vous n'imaginez pas, par exemple, pas la Sainte Vierge, par exemple, négligée, quoi, avec des trucs déchirés, immondes, avec de la morve dessus. Vous voyez? C'est pas son style. C'est pas son style. Mais elle n'est pas extravagante non plus. C'est ça. Elle n'est pas non plus dégorgée. Petites vertus, n'empêche que c'est extérieur, vous me direz, mais ces petites vertus sont les plus importantes. Et parmi elles, il y a l'humilité. Et ce sont les plus faciles à acquérir, les petites vertus. Et en même temps, ce sont les plus importantes, puisque ce sont ces petites vertus qui bombardent l'orgueil, c'est-à-dire l'impureté spirituelle. L'impureté spirituelle. Cette manière de se vêtir, cette manière de ne pas être provoquant, cette manière d'être humble dans son comportement, cette manière d'être gai, dans sa simplicité, cette léger, cette manière d'être humble. C'est ce qu'on avait vu, voyez. Mais voyez, il y a une petite loi extraordinaire qu'Aristote n'avait pas vue. Et que fait remarquer justement, que font remarquer les Saint Alphonse de Ligorie, par exemple. Ou Saint Thomas, bien sûr. Qu'est-ce que Saint Thomas n'avait pas vu? On n'en sait rien. On verra au ciel, peut-être, des choses que Saint Thomas n'avait pas vues. Mais ça, c'est un autre problème. Mais Saint Thomas à 15. Bon, mais voyez, c'est que ces petites vertus, qui sont les tout petits piou-piou de la vertu de tempérance, ce sont celles qui font tomber l'orgueil. Et ce sont celles qui font le gant. Avec les autres vertus cardinales, et avec les autres vertus théologales, et avec les attributs divins. C'est pas par la chasteté qu'on est en lien avec de Dieu, vous voyez? Non. Avec sa miséricorde. C'est beau, ça, de savoir, c'est ça. Même du côté des vertus, c'est les petits qui gagnent. Et qui nous font gagner cette grande, royale vertu de la tempérance que sont, par exemple, justement, par exemple, la chasteté. Et la pureté de l'amour. Un amour qui est pur. Pureté, cette vertu de virginité très très forte, elle est très extraordinaire, hein? Très extraordinaire, la vertu de virginité. C'est magnifique, cette virginale. Ça veut dire que notre concupiscible est entièrement au service des énergies contemplatives. La vertu de virginité, c'est le sommet, extraordinaire, c'est vraiment le sommet de qualité du cœur qui se saisit de toutes les forces du corps, de l'instinct, de la sensibilité, de la passion, pour voir directement Dieu, pour voir directement l'autre, parce que l'autre ne voit pas de lui-même, parce qu'il ne se regarde jamais lui-même, puisqu'il n'est pas fait que toi. Ça, c'est beau. Ça, c'est... Je voudrais un petit peu regarder avec vous qu'il y a bien sûr tout ce domaine des qualités humaines que nous n'avons pas et que nous allons acquérir à force de toujours trouver le point juste de notre amour incarné. Instinctivement, facilement, immédiatement et suavement. Toutes les vertus, c'est instinctivement, immédiatement, promptement et suavement. De manière grave, pour vous, pour Dieu et pour le prochain. C'est quand même. Ça change la vie, il y a d'avoir des vertus, c'est certain. Vous voyez bien, tout ça c'est merveilleux. Mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce qu'on ne sait pas comment il faut faire. Et pourquoi on ne sait pas comment il faut faire? Et parce qu'on ne s'y est jamais trop intéressé. Une des vertus de tempérance, c'est la studiosité. C'est un peu la studiosité. On ne veut pas considérer la chose parce que sinon, vous comprenez? On pourrait avoir à renoncer à un certain nombre de concupiscences captatives. Alors, surtout ne pas regarder comment s'en sortir. C'est pourquoi nous sommes là. Parce que nous voulons avoir l'amour dans nos mains. Et nous voulons que l'amour nous traîne dans son sein. Désespère. Et d'une manière indivise, c'est-à-dire pas découpé en morceaux. Là, je vais avoir un petit peu de sobriété, un petit peu de troupie, un petit peu d'épiquie et un petit peu de gnomie.
Ah oui, pardon, c'est vrai, c'est
non, c'est grave ça. Et comme j'aurais voulu vous un petit peu vous expliquer, vous voyez qu'il y a différents niveaux. Il y a différents degrés. Il n'y a pas de degrés, vous voyez, dans l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de degrés. Il y a des orientations différentes. C'est très différent, vous voyez. Bon, quelquefois, vous avez entendu certaines personnes dire, voilà, il y a 33 degrés dans l'endeuillement. C'est un peu vrai. Mais en même temps, ce n'est pas vrai. Parce que des degrés, c'est initiatique. Dans ce cas, c'est des orientations. C'est des naissances. Elles sont simultanées. Avec Marie, tout pousse en même temps. Les vertus sont connexes. Ce n'est pas des degrés successifs, ce sont des orientations. Quand je suis orienté dans la vision béatifique céleste de mon corps ressuscité et glorieux pour l'éternité, c'est une orientation. Et elle n'est pas en contradiction avec l'orientation d'une patience héroïque, miséricordieuse, pleine de compassion. Est une unité profonde avec mon prochain qui m'énerve. Il y a différents, c'est pas niveau, pas différents degrés, mais il y a des orientations. Le cœur s'oriente partout. La vertu rayonne dans toutes les directions, les orientations, dans tous les chemins de l'homme et de Dieu. Quelles sont ces grandes orientations? Ces grandes orientations, c'est une reprise, hein, de ce qu'on avait dit il y a 4 ou 5 fois. Ces grandes orientations, c'est quoi? Le premier, c'est que les vertus, au départ, on dit oui, on va tout faire pour les acquérir, mais on ne les a pas. L'homme ne naît pas avec les vertus. La Sainte Vierge, par exemple, est immaculée conception, elle a la plénitude de la grâce, mais elle n'a pas les vertus au départ. Il a fallu qu'elle fasse des actes dans toutes les orientations, sans limite de son cœur, pour les acquérir. Jésus, quand il s'est incarné, il a précisé toutes les profondeurs de son cœur humain, toutes les profondeurs de son intelligence humaine, toutes les profondeurs de sa liberté incarnée, toutes les profondeurs aussi de sa subsistance dans la chair, et il avait d'un seul coup toutes les vertus. Les apparatus, elles étaient en lui, infuses à l'infini. Marie, non, c'est une créature. Si elle avait quelques vertus infuses, forcément, probablement. Mais acquise, il a fallu qu'elle passe aux vertus acquises. Méritoire, on reviendra là-dessus. Méritoire, il faut mériter d'aller au ciel. Il faut mériter d'être un homme. Il faut mériter d'être une femme. Ça se mérite. C'est pas. Voilà. Toboggan. Voilà, on verra bien. Ça se mérite. Et le mérite nous vient de la force que Dieu nous donne, ça vient de Dieu. Mais notre mérite, c'est d'être accueillant de cette force de Dieu, de cette grâce de Dieu, de cette loi divine, de cette loi éternelle en nous, qui nous porte à aller jusqu'au fond, au sommet, au dépassement même, de la perfection des qualités du cœur, de l'âme, de la chair, de l'âme, et de son esprit vivant. Alors le premier grand plan, c'est que on est en puissance, on a une vocation, on est créé, et c'est notre vocation, pour avoir les vertus. Quand on les a pas, mais on est en puissance d'avoir toutes les vertus, en puissance de sainteté. Le second, c'est qu'on a une nature déchue. Second plan. On a une nature dessus, il y a le serpent, il y a Mammon, Belzéboul, Zabulon, Asmodée, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs, n'est-ce pas? Bon, Baphomet et compagnie, hein, contre la studiosité, c'est quoi? C'est rien, hein, contre la studiosité, c'est Baphomet. C'est la gnose ésotérico-magique. Baphomet, c'est là. Tous ceux-là qui sont sur nous, vous, et puis nous aussi, notre tendance, tout ça, de nature déchue, il y a nos péchés, nos fautes,
fait petit à petit, bah, en fait, on tombe dans les vices. Au lieu d'avoir les vertus, on devient vicieux. Il suffit de constater un petit peu, je ne sais pas moi, nos tendances, nos impatiences, nos exaspérations, nos jugements, nos réactions instinctives, primes et primées. Si quelqu'un ne me plaît pas, s'il me dépasse un peu, hop, j'écris une lettre pour le condamner. Si je ne réfléchis pas. C'est une parole malsaine pour qu'il se détruise aux yeux des autres. Okay? Parce qu'il m'est supérieur, vous comprenez? Alors c'est embêtant pour mon orgueil. C'est spontané, ça. Sans faire d'effort. Hein? Sans faire d'effort, je vais en enfer. C'est pas compliqué. Si je ne fais pas d'effort, enfin, je vais en enfer. Donc, la deuxième orientation, c'est que les vertus vont me faire sortir. C'est une lutte contre le vice. C'est autre chose que cet appel à la perfection de nos puissances. Le troisième degré, la troisième orientation des vertus, de la qualité de l'homme, qui fait qu'on mérite d'être un homme, qu'on peut être vraiment une personne humaine, c'est que on va s'apercevoir que tout seul on peut pas. Hein, il faut l'autre. Hein. Il faut de l'amour. Hein. S'il y a de l'amour, hein, c'est un amour humain. C'est un amour profondément humain. Profondément, ça veut dire spirituellement, quoi. C'est un amour contemplatif, c'est un amour, une affection, un cœur spirituel profond qui se rencontre avec un cœur spirituel profond. Ça peut être d'ailleurs avec l'amour de Dieu, bien sûr, puisque l'amour spirituel de Dieu est un amour spirituel profond et très fort. Mais si je n'ai pas cet amour-là, je ne sais pas pourquoi. S'il n'y a pas cet aspect sacré qui dépasse l'amour de l'un et de l'autre dans l'unité des deux, dans la communion des personnes, s'il n'y a pas ce côté sacré, on aura une source à ces énergies, à ces forces de relèvement pour construire, pour bâtir la maison humaine qu'on appelle la personne. Alors, là, on n'y arrive pas. Et c'est le troisième degré, s'aperçoit qu'il y a une voie de la conscience profonde qui dépasse l'humain, qui dépasse l'univers, parce que des vertus qui ne consisteraient qu'à maîtriser tout son monde intérieur, corps, âme et esprit, et même, j'allais dire, presque l'univers, mais ce ne serait pas une vertu. Il faut que ça dépasse le mystère des corruptibles et non corruptibles. Le mystère de l'éclaté, vous voyez, de la dispersion et puis de l'unité. Tant que ça ne dépasse pas la diversité des choses, dans l'unité et dans sa source, on ne peut pas. Tant qu'il n'y a pas le sacré, tant qu'il n'y a pas un aspect mystique à cette vertu, tant que ce n'est pas découvert l'existence d'une source qui va au-delà de toute la maîtrise de l'univers et de mon univers aussi, mais de l'univers. Qui m'entoure, tous les temps, tous les lieux. Tant que je n'ai pas vu ça, je ne peux pas voir, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas découvrir au fond de moi, c'est pourtant très facile, cette loi éternelle que la nature a inscrite en moi et qui se traduit par la voie de la conscience. La voie de la conscience ne se découvre pas en réfléchissant. La voie de la conscience ne se découvre pas, ne se découvre pas en par la foi. Non, un peu comme c'est dans le protestantisme, ou Kant, Emmanuel Kant, c'est pour ceux qui en sont un peu philosophes. Alors, voilà, il y a un, et donc il faut faire ça. Impératif catégorique. Mais c'est rationnel, vous voyez. Et puis il faut faire ça. C'est terrible pour les protestants, c'est pour ça que c'est triste quelquefois. C'est dur, et c'est décourageant. Moi, j'ai travaillé pendant 6-7 ans avec des protestants, je vous assure, et c'est très dur pour eux. Je me rappelle d'un type qui avait une paix, extraordinaire, vraiment, lui déplaçait les montagnes. Mais tous les deux ans, il fallait ramasser dans. Il bâtissait des églises. Quand je dis des églises, c'est avec des êtres humains. Hein. Il en convertissait 110, 50, 100 par mois, disons. Dans les rues du quartier latin à Paris, hein. Il allait chercher partout, oui, machin, truc, et un fois, puis les amener au Seigneur. Hein. Mais tous les deux ans, il va les ramasser dans un caniveau. Il était faible, et découragé. Kant, l'impératif catégorique, Martin Luther, ils n'ont pas vu ça. n'ont pas vu que la voix de la conscience demeure dans la nature humaine. Elle demeure comme une source, toujours vive. Et elle ne se découvre pas en réfléchissant ni par la foi. Simplement en agissant, ah bah tiens, je vais lui pardonner. Et au moment où je pardonne, la voix de ma conscience me fait découvrir cette loi éternelle du dépassement de tout ce qui est rationnel, du sacré, de la relation humaine. C'est ça la voix de la conscience. La voix de la conscience, il y a quelque chose qui me dit que d'autres appellent Dieu. Mais on peut, en fait, c'est vrai. C'est pas Dieu, c'est la loi éternelle inscrite en nous. Il y a une dimension, donc, si vous préférez, de liberté aérienne, profonde, toujours vivace en moi. Et si je m'y engage, à ce moment-là, c'est mystique. Chaque acte que je vais poser, un acte de patience héroïque, un acte soupir, un acte. Dans les actes de service, en fait, hein, en rendant service. Hein. Il y a une manière d'en service si je suis en ajustement avec la voix de ma conscience. Et le sacré, le profane et le concret, l'incarnation, sont ensemble. C'est un aspect important, ça, l'air de rien. Faire ça en union avec cette loi divine, la loi éternelle. On y reviendra là-dessus. Parce qu'il faudra regarder la différence entre la manière de vivre des vertus sur le plan de notre relation avec Dieu, sur le plan humain, sur le plan sacré, sur le plan mystique, sur le plan théologal, sur le plan surnaturel. Et sur le plan glorieux et éternel. Et les deux premiers plans, c'est quand on est. Ça commence déjà dans la vie embryonnaire. Là, les voies de la conscience, vous savez, elles sont à l'état pur, hein, libre. Il n'y a aucune obstruction. Hein, jusqu'à l'âge d'un an, à peu près. La grande période mystique de l'être humain. Oublié. Pas toujours oublié, remarquez. Mais on y reviendra, parce que c'est les épreuves de la vie, c'est la base desquelles. Donc le deuxième, et bien, sur tout ce substrat, vous voyez que je viens de dire, il y a ce fait que les vertus s'inscrivent dans une obéissance profonde, personnelle, libre, à la voix de la conscience. Parce que cette loi éternelle, on la ressent. On l'accueille, on agit avec elle. C'est elle, c'est cette source qui est agissante dans chacun de nos actes qui construisent des vertus, et nous, nous ne faisons que l'accompagner. C'est ce que je me rappelle, on disait au catéchisme, quand j'étais petit. C'est une chose, je me rappelle très bien, on était au catéchisme, j'étais en quelle classe c'était, je ne me rappelle plus, ça devait être la classe de cette époque-là, de 8e. Bon, c'est-à-dire CM1, je suppose. Alors, c'est après CE1, CE2, CM1, CM2, c'est ça. Donc CM1 aujourd'hui. Alors, au catéchisme, le curé, enfin, c'était pas le curé d'ailleurs, c'était une dame, Madame Gatineau, qui avait dit, bon, voilà, bon, et qui avait dit, bon, bah, voilà, à chaque fois que vous faites un acte qui est mal, c'est vous qui le faites. À chaque fois que vous faites un acte qui est bien, c'est pas vous, c'est Dieu. Bon, bah, ça, c'est quand même un peu gros, hein. Alors, un petit gosse, il s'est dit, attends, chaque fois que je fais quelque chose de bien, c'est le Seigneur, et à chaque fois que je fais quelque chose de bien, c'est moi. Ah, moi, je me suis dit, alors, après la fin du catéchisme, j'ai couru à la maison, j'ai dit, ma mère, maman, enfin, c'est pas normal, que c'est cette histoire. Et voilà ce qu'elle a dit, Madame Gatineau. Elle a dit, ben, quoi? Alors, il fallait apprendre par cœur, en plus simple, parce que c'est dans la leçon de catéchisme. Eh oui. Oui, tout à fait. Parce que c'est la loi éternelle inscrite en nous. Nous ne faisons que accueillir cette force vive de l'amour. Tout amour vient de Dieu. Et c'est avec cet amour, nous y sommes réceptifs. La voix de la conscience, nous y sommes réceptifs. Et avec une promptitude, une immédiateté, intérieurement, une unité avec elle, on s'y dispose simplement. Hein, il y a une espèce de docilité. Vous voyez ? C'est la docilité qui commande cette troisième orientation. Docilité à la loi éternelle qui est inscrite par la nature, hein, au fond de nous, et qui fait qu'il y a une union entre les sources de l'amour qui viennent du sacré, du créateur, de Dieu, et qui sont dans la nature, qui sont dans mon monde intérieur, et puis je le fais, mais c'est avec. Je ne fais qu'accompagner, y adhérer, y être docile, et y obéir, c'est tout. Vous voyez, je me mets dans le bateau, c'est tout, mais le bateau, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. C'est beau ça, hein? Mais à chaque fois que tu sors du bateau, c'est toi qui coule. Oui, c'est ce qu'on dit toujours, il faut obéir à la voix de la conscience. Enfin, ça, c'est un aspect que le protestantisme, vous voyez, a dégagé de la sagesse humaine. C'est un des drames de l'erreur luthérienne, ça. Et calviniste aussi. C'était un des grands drames. Hein. C'est terrible. C'est terrible. C'est vrai que c'est véritablement dramatique. C'est pour ça que d'ailleurs, l'héritage que nous avons aujourd'hui, c'est que les vertus ont totalement disparu de l'humanité. C'est le fruit. Vous voyez ? La quatrième orientation, eh ben, c'est que quand même, qui est-ce qui va nous aider ? Qui est-ce qui va compléter ? Qui est-ce qui va nous adjuver ? Qui est-ce qui va nous permettre même de marcher sur les eaux si on n'est pas dans le bateau ? C'est Jésus. Vous voyez ? Ah ben voilà, avec la vie, avec Jésus, dans notre union avec le Christ, la vie théologale, par cette grâce divine, cette grâce surnaturelle, cette union divine et surnaturelle, ben cette fois-ci, plus que la voix de la conscience, plus que les sources divines de la loi éternelle, il y a quand même la grâce de Jésus qui nous porte, Marie qui nous porte, le Saint-Esprit qui nous porte, la très sainte Trinité qui nous porte. Vous voyez, ce cinquième niveau qui est beau. Et alors après, bien sûr, c'est une autre chose. Alors à ce moment-là, il va y avoir quelque chose, vous voyez, c'est la foi qui fait ça. Et on commence à rentrer dans des vertus qui sont aspirées, c'est ce que je veux dire, portées, appelées par la présence de Jésus. Vous voyez ? D'être uni à Jésus, crucifié, par exemple, c'est fou, quoi. Et d'ailleurs, on pratique cette méditation. On regarde les mystères du rosaire vivant. C'est beau, ça. Et du coup, on rentre dans ce cinquième niveau qui est cette union avec le corps mystique du Christ. Avec la plénitude. Et on va du coup dans une autre orientation et qui est celle de la transformation mystique par l'oraison. La transformation mystique, là ici, cette fois-ci, c'est l'Esprit Saint qui prend le relais de Jésus et de nous. Nous, Jésus disparaît et moi aussi, dans l'unité avec Jésus, Jésus disparaît dans son unité avec moi, l'Esprit Saint. Délicatesse, magnifique, royale, sans nom, mais délicatesse, c'est l'esprit de grâce. Délicatesse, c'est impossible de mettre quelconque ride, quelconque impureté dans cette transformation divine qui s'opère en nous. On ne peut pas y mettre notre pas. C'est plutôt ravioli, boutonni, plutôt bof. Non. Alors, l'esprit d'intelligence, la pureté d'enfance. Et l'esprit de sagesse. Qui prennent le relais. Vous voyez, vous avez donc ces 8 grandes orientations des vertus qui, elles, nous préparent toutes. C'est-à-dire que le corps soit entièrement spiritualisé, le psychisme entièrement spiritualisé, notre esprit entièrement sacralisé, et notre vie, notre unité personnelle entièrement transformée. Cette transformation qui fait qu'on a une forme nouvelle, c'est une forme divine et humaine en sa plénitude. Et du coup, on est pur, et du coup on peut voir Dieu, se voir soi-même et voir son prochain. S'il n'y avait pas, vous voyez, cet instinct sexuel, eh bien, on n'aurait pas la possibilité d'aller aussi loin.
dans l'assimilation absolue
à la pureté,
jusque dans notre corps. L'ange ne peut pas avoir ses vertus. Il n'y a aucune vertu de tempérance dans un ange.
Il n'y a pas de vertu de chasteté.
Il n'est pas, il est ni masculin, ni féminin.
Oui. Alors, ça c'était...
Bon. Donc, mon sujet aujourd'hui, c'était donc de regarder un petit peu avec vous. Une spiritualité, vous comprenez bien que donc il y a une spiritualité de la morale. Parce que ça, avoir des vertus, ça s'appelle un mot terrible, affreux, ignoble. La morale. C'est un mot qui est devenu odieux à cause de Kant. Vous vous rappelez, j'étais à l'université à Fribourg, le professeur d'éthique morale, il disait, c'est Kant qui est le maître. C'est le seul qui a eu la science exacte de l'amour, de l'affectivité et de la morale. Critique. Ah, c'est avant. Ah, vous croyez? Le seul, pour des comptes. Celui qui a détruit la possibilité des vertus. Parce qu'il n'y a plus de voie de la conscience. Il y a un impératif catégorique. C'est fou ça. Vous savez pourquoi Kant dit ça? Parce qu'il dit, moi je suis d'origine protestante, je veux traduire en langage scientifique philosophique la morale de ma foi luthérienne. Or pour Luther, le cœur humain et l'intelligence humaine sont totalement détruits par le péché originel. Totalement. Donc il n'y a plus rien dans la nature pécheresse de l'homme, plus rien. La seule ouverture, c'est la foi en Christ. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a plus rien. Tout est détruit, spirituellement. C'est faux. C'est faux. L'intelligence est parfaitement. Comment là, si l'intelligence était détruite, elle ne pourrait pas pénétrer dans la lumière surnaturelle de la foi. Et le cœur est seulement blessé. Il est blessé, le cœur. C'est vrai, le cœur est blessé. Notre affectivité est blessée. Elle a une tendance à aimer les choses inférieures. C'est une tendance. Ça accentue, je vais dire, le problème de la tentation. C'est tout. À cause de ça, il n'y a donc aucune possibilité pour l'homme d'acquérir les vertus par ces espèces d'adjuvances. Et du coup, Luther dit, la sainteté n'existe pas. Pour l'homme, Jésus, c'est tout. Donc, qu'est-ce que vous nous racontez que la Sainte Vierge, par exemple, est sainte? Il n'y a pas mieux la vivance de la grâce sanctifiante. Pleine de grâce sanctifiante, il n'y aura pas Sainte Vierge. Attends. Et vous, il n'y a pas besoin de vivre dans l'union avec la grâce, la sainteté en plénitude qu'auraient, soi-disant, les saints, puisque c'est fini. Du coup, il n'y a pas, l'Église catholique n'existe pas, le corps mystique, si vous préférez, l'Église, du coup, la substance même de la transverbération n'existe pas, etc. Vous voyez, c'est la déchéance totale hein, du christianisme. Vous sentez? Uniquement sur un principe hérétique qui est terrible, terriblement simple à comprendre que ce n'est pas vrai, parce qu'on en fait l'expérience que notre cœur est seulement blessé, et que notre intelligence n'est absolument pas blessée. Puisqu'elle reconnaît immédiatement la vérité dès qu'elle s'ouvre à elle. Donc l'intelligence n'est absolument pas baissée. Mais pas du tout, pas le moins du monde. Qu'il y ait de la paresse, d'accord. Qu'on n'ait pas la vertu de studiosité, très bien. Mais notre intelligence fonctionne très bien, contemplative, très très bien. Très bien. Elle n'est absolument pas blessée, notre intelligence contemplative. Notre cœur un peu blessé. Oui. Alors c'est cette simple erreur, regardez le désastre. Donc il faut comprendre qu'il y a une mystique, il y a une spiritualité des vertus. Vous voyez, c'est pas une espèce d'organisme, tac, tu as un impératif catégorique, il faut faire ça, vous voyez, il n'y a pas une science des vertus. Il n'y a pas des degrés pour les vertus. Non, non, c'est une orientation. Une orientation, c'est un soleil, la vertu. Ouais, c'est ce qui rayonne dans toutes les... Dans tout, dans tout. toutes les directions. C'est chaleureux, l'ouverture. C'est souriant. Quand c'est la tempérance, c'est souriant. C'est chaleureux. C'est incorruptible. C'est toujours renouvelé. C'est beau. C'est éclatant. L'éclat de la beauté, saint Thomas d'Aquin. Pour la tempérance, l'éclat de la beauté. Le fruit de la vertu de tempérance, c'est l'éclat de la beauté. C'est vrai, c'est très vrai. Alors, je vous verrai que vous pourrez partir avec le petit résumé de la dernière fois. Et je voulais donc un petit peu, hein, qu'on s'introduise un petit peu dans cette différence, puisqu'il y a différentes orientations, sur la vertu toute spéciale de la chasteté et de la pureté et de la virginité. De la spontanéité. Il y a différents niveaux, oui. Il y a différentes orientations. Il y a un rayonnement. C'est une seule vertu. Mais elle a ses différentes orientations. Et ce sera pareil, en fait, si vous regardez bien, pour toutes les autres vertus. Mais on va prendre une vertu, celle de la chasteté, celle qui nous permet de faire vivre toutes les forces intime, profonde, incorruptible de la personne dans la signification sexuelle. Parce que la chasteté, ça touche justement pas la sublimation de l'instinct sexuel, mais l'utilisation de toutes les forces de l'instinct sexuel. Sinon, si on n'utilise pas ses forces, cela passe pas. Ou bien vous êtes trop constipé, ou bien ça part en liquide. Et la chasteté, c'est juste le milieu. Ni constipé, vous assimilez tout. Donc il n'y a ni constipation, ni liquide. Tout est assimilé. Tout est utilisé. Tout est intégré. Tout est pur. Tout est profond. Tout est, du coup, les sources du bien. Tout est incorrompu. Et tout s'intensifie. Alors vous verrez que pour s'enraciner à la vertu de chasteté, c'est vrai qu'il y a un petit problème supplémentaire pour nous par rapport à tous les temps, c'est que nous sommes les héritiers de Freud. Et Freud, il a fait pire que Kant. Kant, il n'a pas été jusque-là, heureusement. Mais Freud a fait pire que Kant, il a dit il y a une continuité entre l'affectivité sensible et l'affectivité sexuelle. Il y a une continuité entre l'affectivité sexuelle et l'affectivité sensible. Ça veut dire quoi ? C'est une manière de parler, évidemment, parce qu'il faut parler avec noblesse, n'est-ce pas ? Avec sobriété. Bon, mais il faut quand même comprendre ce qu'on dit aussi. Il dit, ah bon, ben, si tu aimes bien quelqu'un, c'est tout à fait normal que tu t'exprimes dans une affectivité sexuelle. Il y a une continuité entre les deux. Si je l'aime, pourquoi ? Pourquoi pas ? C'est normal. Vous voyez, ce blocage qui s'est fait avec Freud entre l'affectivité sexuelle, je l'aime. On s'aime tous les deux. On s'aime bien. On s'aime beaucoup même. Alors pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Et pfff, l'hippopotame. Bon, ça, le bouchon, il ne monte pas à la surface quand même. C'est pas vrai. Hein. Où est le sacré là-dedans ? Où est la voix de la conscience ? D'ailleurs, la première fois que ça t'arrive, comme souvent d'ailleurs, Le fait de renoncer à l'amour, de renoncer au bien, de renoncer à la construction de la personne en faisant un péché, une fois, quand c'est la première fois, tu sais très bien que c'est un péché. Même si tu n'es pas chrétien, parce que la voix de ta conscience te fait faire, bon, tu es très très amoureux, et elle est très amoureuse, elle est deux, tout ça, vous vous aimez beaucoup, et bien en fait, vous mettez la continuité, pour la première fois de votre vie, hein,
Et c'est la continuité entre l'affectivité sensible en question et l'affectivité sexuelle, et vous consommez, hein, pour obéir à la loi naturelle freudienne, à la loi libidinale freudienne, celle qui nous a appris, grâce à l'éducation de notre papa, notre maman, qui nous ont appris ça, nos psychologues, nos parents, nos enseignants, tout ça, nos téléviseurs et tout. Il nous a appris ça universellement, on est la troisième génération. Il n'y en a pas un qui ne pense pas comme ça. Pas un seul. On est imbibé de troisième. Imbibé. C'est pas compliqué. Donc ne dites pas, moi le troisième, tout à fait en dehors du troisième. Ça n'est pas vrai. On est imprégné de l'idéologie française. Imprégné.
En fait, dès qu'il y a un problème, tout de suite, le psy. Hein? Vous n'avez pas un psychiatre, vous avez un problème? On en est un dit. On a ce problème supplémentaire. Vous voyez? Il n'y a aucune continuité entre l'affectivité sensible et l'affectivité sexuelle. Aucune. Il n'y en a pas. Les centres même organiques dans le corps qui s'activent dans l'affectivité amoureuse et l'affectivité sexuelle sont totalement séparés. Il n'y a aucune connexion, même dans le corps, je ne sais pas. Il y a des déclenchements hormonaux, il y a des déclenchements de... Ils n'ont rien à voir. Il n'y a aucune continuité. Aucune. Là, si l'affectivité sensible est là, tu pourrais justement aspirer à la communion des personnes, et la communion des personnes, ça fait comme une pompe, si vous voulez. Et puis du coup, l'affectivité pourrait... Et c'est le contraire. C'est le contraire, il y a une continuité entre l'affectivité sexuelle et l'affectivité spontanée. Ah, c'est tout à fait différent. Mais si j'ai pas la vertu, si j'ai pas la voix de la conscience, si j'ai pas la docilité, ah, mon appel profond personnel limpide à la pureté de la personne, à l'accomplissement de ma vocation d'homme pour être un homme de pour une femme. Alors à ce moment-là, je deviens libidinal et je pisse contre un arbre. Vous savez, à chaque fois que Freud a eu une nouvelle intuition sur la découverte des lois humaines, il l'a dit, c'est à chaque fois que je pisse contre un arbre. Vous voyez, les sources de l'idéologie freudienne à laquelle nous adhérons tous. C'est jaune, hein? On a une autre source qui est notre expérience. Et on sait que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est important de comprendre ça, vous savez. Très important. Très important. Et donc, quelque part, il faut que l'appétit sexuel serve de ce bras de levier de l'amour sensible et passionnel pour dépasser l'amour passionnel dans les énergies de l'âme et rentrer dans les profondeurs de la communion des personnes dans ce qui est le plus sacré. Ça sert à ça, la sensation. Mais si un saint sexuel se prolonge comme une espèce de cataracte, c'est la catastrophe. La barque s'écrase. Et il n'y a plus de communion des personnes. Et ça, c'est très très important de comprendre. C'est pour ça qu'il faut être courageux. Il faut lutter contre cette idéologie. Contre l'esclavage barbare de cette idéologie en nous, qui est tout à fait contraire aux lois de la nature et de la conscience. Il faut lutter contre elle, que ce soit, vous voyez, dans les choses simples, dans les choses passagères, dans les choses qui sont. Qui paraissent, oh, pas grave, rien du tout, même, c'est pas, c'est une simple pensée comme ça qui m'est traversée, c'est rien, c'est normal, c'est pas normal. Il faut lutter courageusement, justement pour reprendre, j'allais dire, force de la signification spontanée de notre corps, de notre cœur, de notre personne profondément investie par le désir d'amour. Le désir,
l'accomplissement de l'amour, de l'accueil de l'amour. Et ça, donc, il faut vraiment bombarder sur soi. Et donc, il faudra donc forcément éduquer progressivement, c'est toujours progressif, hein, notre cœur, nos élans affectifs, hein, pour que tout le temps, on fasse un acte de recentrage de nos pour vivre à nouveau dans notre dans l'engagement actuel de la vertu de chasteté, la constatation expérimentale que c'est ça qui est notre force dès qu'on est d'abord. Et que si je fais le mouvement inverse, c'est ça qui est notre corruption dans notre relation amoureuse, dans notre affectivité sensible. C'est une expérience qu'on fait. Mais il faut lutter courageusement, contre nous, progressivement. Dans le concret, ça c'est important. Donc il y a toute une spiritualité de la chasteté, mais je voulais quand même en parler, hein, cette histoire de Freud. Et pour dire que si vous savez, vous aurez un petit un tout de ce que je suis en train de vous dire sur le papier qui est là-bas. Et donc, pratiquement, vu la condition dans laquelle nous sommes, le roi et la dame, vous voyez, de notre jeu d'échecs, et ils sont déjà en très très mauvaise fortune, ils ne peuvent plus bouger, ils sont coincés. La partie d'échecs est très avancée, c'est ça. Donc, le roi et la dame, c'est vrai. La chasteté, à cause de Freud, est bien coincée. Bien coincée. Donc alors attention. Eh bien, il faut lutter toutes ces forces et tous les autres trucs. L'humilité, la fidélité, la docilité. Et courageusement, vous voyez. Et la sobriété. Avec les petites vertus. La mesure, l'ordre, la propreté. Et puis en même temps, il ne faut pas s'écourager. Parce que les vertus s'acquièrent progressivement, à force de poser des actes. Donc il ne faut jamais se décourager. Il faut lutter pour être entièrement immaculé dans ses pensées, dans son imaginaire, dans ses intentions affectives, dans ses comportements. Pour qu'il n'y ait jamais réduction à l'objet recherche du plaisir pour soi, oui, mais qu'il y ait au contraire la recherche de l'unité dans l'épanouissement et l'extase profonde mutuelle. Et qu'il y ait donc une puissance qui s'opère dans toutes les ouvertures de la plénitude de l'union, de la communion des personnes. Ça, c'est très important, il ne faut jamais se dire j'y arriverai jamais. Il faut avoir confiance. Et il ne faut pas avoir honte. Et il faut toujours croire à notre oui. Croire aussi au oui pur, entièrement immaculé de l'autre, et en particulier celui de Dieu. Ça, c'est la lutte contre Freud. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui... Parce que c'est sûr, on dit quelquefois, je n'y arriverai jamais, c'est pas possible. À chaque fois, c'est tous les bons garçons qui sortent de l'armée. Hein. Si tu sors de l'armée, c'est pas facile. Hein. Quand on a mon âge, c'est jamais fini, c'est vrai. Même on voit quelquefois 80 ans, c'est pas fini. C'est jamais fini. Il faut lutter tout le temps. Et on a acquis, à force de lutter, une vertu qui s'appelle la chasteté relative. Puisqu'on lutte, on a la chasteté relative. On n'a pas la chasteté parfaite. C'est vrai. Et de temps en temps, dans une presse, je me suis laissé avoir. Ah là, dedans, j'ai été. Je me suis arrêté quand même sur cette affiche. Dans la rue, le cinéma, je mets cette affiche. J'ai regardé. Je me suis raté. Oh là là. Plus de 3 minutes. Faut pas se décourager, ça faut pas s'inquiéter.
On lutte.
Et dès lors qu'on lutte tout le temps, c'est qu'on a la chasseuse. On a un petit peu dérapé.
On a un petit peu dérapé.
C'est pas génial d'avoir dérapé, mais il faut pas en être triste.
Puisqu'on lutte, il ne peut pas y avoir de tristesse.
Et le signe qui est à la chasteté relative, c'est qu'il n'y a pas de tristesse, ni de honte. La tristesse et la honte viennent du sentiment de culpabilité et on retombe dans les ornières quotidiennes.
Pour
ah non, pour celle-là en particulier, parce que c'est celle qui engendre le plus de sentiment de culpabilité. C'est
celle qui a fait le plus honte. Parce que c'est là où on est le plus grossi, quelque part. Hein? Le plus. Bon, le plus laid. Donc, quelque part, vous voyez, il ne faut pas être triste. La tristesse, dans les rapports avec le prochain, la tristesse dans les rapports fraternels, vous voyez, n'est pas virginale. Quelqu'un qui est triste, même si jamais il n'a de relations voluptueuses ou impures, n'est pas chaste. Ça, vous pouvez être sûr. La tristesse, vous voyez, la tristesse dans les rapports fraternels, c'est une signature de quelqu'un qui n'a pas la chasteté. Même s'il n'a pas de rapport avec lui. Vous voyez ?
Le rapport corrompu,
voluptueux, ou avec soi-même.
Non. Ah, c'est extraordinaire de voir ça. La tristesse est contraire à la virginité. À la virginité, et en particulier à son soubassement qui est la chasteté. Ça, c'est un petit critère intéressant qui montre qu'on ne lutte pas et donc on n'a pas été vers l'utilisation de l'amour pur et du pur amour et donc la maîtrise pratiquement du tir. Hein? Oui. C'est qu'on est resté prudent. Alors ça allez, il y a donc une distinction à faire dans ces trois grandes orientations dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quand même pas pareil de se retrouver avec l'instinct sexuel et puis d'essayer de l'assumer pour l'utiliser, pour avoir un amour disant que Jésus le préfère. C'est pas pareil d'essayer de vivre à partir de la chasteté relative. C'est pas pareil, une autre orientation, que de vivre avec la vertu de virginité. C'est pas pareil que de vivre dans la grâce immaculée et divine de l'union transformante, c'est pas pareil, non plus encore à un autre niveau, de vivre du conseil évangélique de l'esprit de virginité. Ou si vous préférez, c'est pas pareil de se faire vœu de célibat, vous voyez, les prêtres par exemple, quand ils font recevoir l'ordination, ou les diacres font vœu de célibat. C'est pas pareil de se faire vœu de célibat, de faire vœu de chasteté, vous voyez, le chasteté, ça, alors, c'est les baptisés, c'est très prêtre. Les baptisés, c'est vrai chasteté, justement. Ils veulent respecter tous les commandements de Dieu et la voie de leur conscience. Donc, ça, c'est un. Deux, le vœu de célibat. Trois, faire le vœu de les vœux de religion, vous voyez. C'est-à-dire s'engager dans l'esprit de virginité. Ça, c'est pareil. C'est des orientations différentes. Elles appartiennent à la même vertu. Elles appartiennent au même éclat. Mais c'est des plans un petit peu différents. Il faut quand même voir la différence entre les trois. Et accepter que il va falloir que dans notre vie chrétienne, on puisse trouver le secret qui nous permet de passer d'une chasteté relative, c'est-à-dire qui fait des progrès petit à petit, à la chasteté parfaite, parce que c'est seulement la chasteté parfaite qui permet et qui ouvre la porte à la vertu sœur, qui s'appelle la vertu de virginité. La chasteté parfaite est la matière de l'esprit de virginité. Et donc il faut inspirer l'esprit de virginité. puisque sans l'esprit de virginité, l'évangile n'a pas pris possession de soi dans la manifestation de sa personne, dans sa communion avec Dieu. Donc c'est impératif d'aspirer à la sainteté parfaite. Sinon, il n'y a pas de cette fameuse vertu de virginité qui ne va pas apparaître, et c'est-à-dire que la virginité ne pourra pas laisser la place dans l'horizon à l'esprit de virginité. Ça, c'est la trame. Hein. Vous voyez la trame? Et l'esprit de virginité, lorsqu'on va le tremper dans la dormition, nous permet d'être au passage du corps psychique dont nous allons nous séparer, au corps spirituel et qui est dans le Christ notre Seigneur ressuscité, à la vision bénéfique, immédiatement. Sans l'esprit de virginité, strictement impossible de rentrer dans la vision bénéfique, strictement impossible. Hein. Quoi, cet esprit de virginité?
C'est
un premier commandement. Oh, un premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ton prochain comme toi-même. Et c'est l'unique commandement. Mais dans cet unique commandement, il faut qu'il soit beau, qu'il soit éclatant, qu'il soit jeune, qu'il soit incorruptible. Il faut ça. Il faut s'inscrire dans cette fermentation. Si vous voulez qu'il soit profond, mais si vous voulez lancer dans la confiance, si vous voulez qu'il soit victorieux sur les obstacles, c'est la vertu de force. Si vous voulez qu'il soit lumineux, qu'il soit unifiant, c'est la vertu de force. Et si vous voulez qu'il soit épanouissant, c'est la vertu de force. Mais si vous voulez qu'il soit jeune, éclatant, voyez, libre, pur, c'est la vertu. C'est cette espèce de non. Vers l'esprit de virginité. Et l'esprit de virginité, la clé de la vertu sacrée. Sans l'esprit de crainte, l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse, ces trois dons qui structurent expérimentalement de notre vie, union transformante mystique, l'esprit de virginité, c'est strictement impossible d'avoir cette humilité infuse de l'esprit de crainte. Cette splendeur de l'union, lumineuse de notre intelligence incarnée avec le Père, dans le Verbe de Dieu, dans la transfiguration. C'est ce que permet l'Esprit de Dieu. Et la faveur, prendre compte, cette transfiguration savoureuse de Dieu le Père, à travers Dieu le Fils, dans l'intégration de la vision béatifique dans laquelle nous entrons. C'est ce qu'on appelle l'Évangile. Dans l'Évangile, il y a trois conseils. Les apôtres ont voulu résumer l'Évangile en trois points. Ils ont dit esprit de virginité, esprit de pauvreté, esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance, c'est l'obéissance fondamentalement à la voix de la conscience et à l'Esprit Saint pour être virginalement, complètement, immaculé et incorruptible. Dans un monde nouveau, toujours nouveau, comme une version toujours nouvelle, et splendide, de cette transfiguration de l'esprit de virginité. Et l'esprit de pauvreté est dedans, puisque l'esprit de pauvreté intègre l'humilité infuse. Et on a vu que l'humilité infuse était une sous-vertu de la modestie. Et la modestie est une sous-vertu de la tempérance. Et donc l'esprit de pauvreté et l'esprit de virginité, dans l'inscription à l'appel de l'Esprit Saint, sont les trois, rendez compte, c'est le trépied de l'Évangile, et ils dépendent tous de la vertu de tempérance, comme socle. Alors pour qu'il y ait la plénitude, il faut la vertu de justice. Pour qu'il y ait la lutte, la victoire contre les obstacles, il faut la vertu de force. Et pour qu'il y ait l'unité profonde de l'amour avec tous les hommes et tous les temps et toute matière, tout l'univers et tout ce qui est dans l'intimité de Dieu, il faut la vertu de prudence. Très bien, on est d'accord. Mais le socle des trois conseils évangéliques, c'est la tempérance. C'est le socle. Pourquoi? Parce que la tempérance implique l'esprit d'obéissance, l'obéissance au Saint-Esprit qui veut un amour pur, qui est pur dans l'amour. Il implique l'esprit de pauvreté, l'humilité à l'état incréé en Dieu, et l'esprit de virginité. Et l'esprit de virginité, lui, vous voyez,
appel comme matière. Tu ne peux pas brûler le feu chaleureux de l'esprit de virginité si tu n'as pas la chasteté parfaite. Donc pour les chrétiens, la tempérance, c'est capital. Vous voyez ? Donc Freud, hein, vous lui prenez la tête, les yeux, les oreilles, et vous les arrachez tout. Vous arrachez. Dégagez. Il n'y a aucune continuité entre l'affectivité sensible et l'affectivité sexuelle. Aucune. C'est faux. C'est contraire à toute expérience humaine commune. Ça n'est vrai que pour les vicieux, ça. Et pour une personne normale, non. Bon, voilà, j'ai bon de bombarder, c'est pas du tout mon sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce que moi, de temps en temps, sur les sept têtes du dragon rouge, hein, c'est une des sept têtes du dragon, hein, Freud, hein. Enfin, un dragon à sept têtes, hein, les sept idéologies athées de la fin du monde, Freud, c'est une des sept têtes, hein, n'oubliez jamais ça. Hein. Donc là, faut couper, hein, dégagez. C'est la terre, hein, qui vient au secours de la femme quand le dragon rouge est prêt à venir la dévorer. Quand je veux mettre au monde l'humain dans sa jeunesse. Et la terre, c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps qui reçoit la bonne semence, le verbe de Dieu. C'est ça, la terre. C'est comme notre chair est saisie par la transverbération. Sans l'esprit de virginité, m'excuse, la terre dans l'Apocalypse, qui s'ouvre et qui fait que le dragon freudien ne nous atteint plus, c'est l'esprit de virginité. Comment on fait? Il faut donc faire le vœu de virginité. Il faut que je m'engage et que je fasse le vœu, parce que si je ne fais pas le vœu, le Seigneur ne me donnera pas la durance, la grâce, la force d'y rentrer, pour adjuver cette obéissance de la loi de ma conscience, et pour que je puisse suivre ces forces virginales de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Donc je vais faire le vœu de virginité. Et voilà ce que dit l'Évangile, faites le vœu de virginité, faites le vœu de virginité. Suivez les conseils évangéliques. Alors, la vertu de tempérance. Vous verrez que la vertu de virginité, vous verrez que l'union transformante, l'expérience des trois dons du Saint-Esprit qui font que on sera là. Même ceux qui sont dans le mariage sont appelés à l'esprit de virginité. Bien sûr. Évidemment. Ah oui, alors je fais un petit peu en revenir à quelques petits points. Je vous le lis parce que sinon il me reste plus que 10 minutes, donc je vous le lis. Et ce sera finalement peut-être le sujet de la prochaine fois, c'est ça que j'aurais voulu vous expliquer. Je vous le lis tranquillement, vous avez ce papier, vous pouvez le prendre. Et sachez que c'est de ça qu'on va continuer à parler la prochaine fois. Il faut faire le vœu de virginité, donc voilà, mon introduction est terminée. C'est Jésus qui nous donne ce conseil. L'évangile et la révélation chrétienne sont là pour nous donner esprit de virginité, s'il vous plaît. Rentrez dedans. Et vous en aurez non seulement la force, mais en plus la grâce, l'accomplissement et l'épanouissement. Apportez vos pains et vos poissons, et moi, je multiplierai tout. Il faut d'abord considérer que si vous faites le vœu de virginité, je veux vivre, être virginal dans mon amour, dans ma chair, dans mon sang, dans ma contemplation, dans mon affectivité, je veux pas qu'il y ait quelque chose de quoi que ce soit de corrompu. Je veux que tout soit naturel. Je veux rien d'idéologique, rien d'artificiel, et rien, que tout soit naturel. Hein? Et que je ne dise pas, mais ça c'est naturel, d'être vicieux. Non, non, que tout soit naturel. Les vertus, c'est quelque chose de naturel. C'est normal qu'il y ait les vertus. Le vice, ça n'est pas naturel. C'est contre nature. Parce que l'homme est appelé à être en communion des personnes, d'une manière parfaite. Donc tous les vices en péchant, totalement, absolument, scientifiquement, à la communion des personnes, c'est donc pas naturel. C'est normal. Donc il faut donc découvrir nos fêlures, Par exemple, je viens de soulever une de nos fêlures, l'idéologie freudienne qui est en nous. Et qui fait qu'on s'autorise des choses incroyablement. Malhonnêtement. Parce qu'on s'est habitué à la désobéissance première de notre première chute. Quand on avait 16 ans, 20 ans. Ah, c'était dur, hein, mais on en avait conscience, hein, parfaitement. Mais on a oublié ça. Maintenant, on trouve que c'est normal. Si on veut vraiment rentrer dans l'esprit de la vérité, il faut voir nos fêlures et demander au Christ et à nous-mêmes d'accepter d'en sortir et d'en sortir effectivement. Deuxièmement, il faut se livrer aux autres. Pourquoi ? Parce que l'impureté, la luxure, la captativité font qu'on ramène tout à nous. C'est instinctif ça. Si on est vicieux, c'est instinctif. On ramène tout à nous. Et donc, il faut toujours faire un effort, faire des actes pour être au service de l'autre. Rendre service à l'autre. Être au service du prochain. Être au service de Dieu. Être au service de l'Église, être au service de la liturgie, être au service de la prière communautaire, être au service de Dieu. Je vais me mettre au service du Christ qui a besoin de moi pour glorifier le Père. Je vais me mettre au service de... voyez, je vais mettre au service du Christ et du Père pour qu'il puisse jubiler dans l'Esprit Saint avec toute sa création. Je vais être au service pour glorifier Dieu, pour l'unique gloire de Dieu en vivant des sacrements. Les sacrements, c'est pas pour nous, hein. C'est pour les autres. C'est pour ça que l'égoïsme à l'état pur, c'est que je ne veux pas vivre des sacrements. Ça, c'est sûr. Alors, donc, sur le plan, il faut donc s'orienter vers une très grande profondeur au service de Dieu et au service des autres. Il faut faire des actes de ce côté-là, tout le temps ce côté-là. Ça, c'est l'esprit de virginité. Vous voyez, et enfin, je vais m'engager personnellement pour être attiré par la première personne de la Très-Sainte Trinité. Voilà le troisième niveau de l'esprit de virginité. Je vais engager toutes mes forces instinctives, sensibles, pour être attiré. Comme un soleil est attiré par l'obscurité qui l'envahit, que le soleil envahit, pour le faire disparaître. Première personne de la Très-Sainte Trinité. Alors ça, du coup, je suis transformé dans cette activité que fait la virginale épouse du Père, qui est le Verbe de Dieu. Je fais la même chose que le Verbe de Dieu, et c'est le Verbe de Dieu qui le fait à travers moi. Et là, c'est ça l'esprit de virginité, c'est d'aller jusqu'à la transe verbération. La transe verbération. Alors, évidemment qu'on va faire des efforts pour lutter contre les tentations grossières. Ça, c'est notre part. On apporte nos pains et nos poissons, on va lutter, on ne se découragera pas, on ne sera jamais triste, et on sera toujours dans l'eutropie. On sera eutropique, tout le temps, c'est pas ? Humble. Humble. Au moins, comme il y a des petits dérapages, de temps en temps, super, excellent, comme ça, on est reste humble. Et joyeux d'être humble. On lutte, c'est tout. Voilà. Donc la victoire, on l'a, puisqu'on lutte. Allez. On l'a, c'est gagné, c'est fait. C'est super. Allez. C'est formidable, ça. Et on l'a pour soi, on l'a pour le prochain aussi. Ah, il est foutu, il est obsédé sexuel, celui-là. Non, 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 on a confiance pour le prochain aussi. On est joyeux pour lui. Vous voyez, ça c'est notre part. C'est notre part. Évidemment, il faut conserver de toute façon une certaine lucidité sur cette question. Il faut être clair quoi là-dessus. Dire voilà, je ne suis pas encore arrivé, j'y arriverai, c'est sûr, la pauvre. Mais maintenant, ce n'est pas ça qui fait le conseil évangélique. Ce qui fait le conseil évangélique, c'est de rendre la possibilité, de donner la possibilité au Saint-Esprit de se saisir de nous et de faire en sorte que son intervention va nous soulever corporellement en direction des vertus infuses, des vertus théologales et de la transformation surnaturelle vivante. On va se mettre à la disposition du Saint-Esprit. C'est ça qui fait l'esprit du virginitaire. Ah. Alors pour ça, si Saint-Esprit, moi je ne connais pas, hein, pas fait trop expert, ah ben je vais faire oraison. Je vais faire oraison. Eh oui, c'est ces moments chaque jour, je vais faire des moments d'oraison un peu chaque jour, où je vais donner la permission, parce que je suis bien élevé quand même avec Saint-Esprit, il faut être poli, hein, faut avoir une délicatesse. À vous, très Saint-Esprit, maintenant, je ne peux pas plus que. Je peux pas une heure. Bon, ben, fais 40 minutes. Je ne peux pas 40 minutes. Ah bon, ben, fais une demi-heure. Je ne peux pas trop une demi-heure. Fais 20 minutes. En 20 minutes, même heure, vous devez. Bon, je pète le. Fais 10 minutes. Je peux pas 10 minutes. Fais 5 minutes. Et calcule bien le temps que tu passes aux toilettes, hein, pour descendre si tu es constipé ou si tu es liquide. Hein. Regarde le temps que tu passes chaque jour. Fais quand même un petit peu plus de temps que le temps que tu occupes à ta mère. Hein. D'accord ? Saint-Esprit, il doit occuper un peu plus de temps chaque jour que tes excréments. Hein, s'il te plaît. Prends ça un peu comme critère. Calcule bien chaque jour combien tu passes. Bon, allez. En moyenne, on y passe 20 minutes. Hein. C'est pour ça que la Bible dit une demi-heure hein, pour le Saint-Esprit chaque jour. Une demi-heure. Une demi-heure de politesse pour que ce soit lui qui agisse pendant une demi-heure, pas toi. Pas toi. Pas la voix de ta conscience, pas ce que tu ressens. Non, non. Lui. L'esprit d'énergie, ta délicatesse sans limite, et sans nom. Sans frontières. Ah, esprit de... Et je demande à l'Esprit Saint d'être là. Je demande à l'Esprit d'intelligence d'être là. Je demande à la saveur de Dieu d'être là, surnaturelle, celle qui est au ciel, de m'investir, de m'envahir pendant 20 minutes. De m'envahir, l'invasion de la délicatesse, esprit de crainte, l'invasion de la limpidité lumineuse d'amour passive du Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence. L'invasion savoureuse, communicative, surabondante, unité lumineuse. Ah, j'ai envahi par ça pendant 20 minutes chaque jour. Ça, c'est ce qu'un chrétien doit faire tous les jours si il est d'accord de vivre des conseils évangéliques, c'est-à-dire de dire moi, l'évangile, c'est important pour moi. Et si tu es chrétien et que l'évangile, eh bien, c'est pas important pour toi, alors tu ne fais pas ces 20 minutes, une demi-heure d'oraison par jour. Et du coup, tu n'es plus chrétien. C'est fini. Ah, moi je préfère comprendre, regarder la télévision. Je veux dire, le jour du Seigneur c'est drôlement bien, il y a des super émissions. Non. C'est pas virginal. C'est triste. Et la tristesse n'est pas virginale. Joyeusement, que ce soit Saint-Esprit qui prenne ta place pendant une demi-heure, 20 minutes, allez, un quart d'heure si tu veux. Mais au moins, que ce soit un peu plus que ce qui est corruptible en toi. Ou autant. Autant. Allez, autant. Pour que tu aies encore une chance de ne pas tomber dans la réprobation pour toujours.